Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Le Flash Info de CAN en français, présenté par Rachel Haddad.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir. Rachel Haddad et Yael Bornstein, vous êtes sur CAN en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 24 avril 2024, 201e jour depuis le début de la guerre contre le Hamas. Lors d'un entretien préenregistré, Yael Bornstein a interrogé le docteur Eric Seton sur l'évolution du front nord ainsi que sur l'incursion imminente de l'armée israélienne à Rafah. Et dans le magazine de ce soir, vous retrouverez de nouveau Yael Bornstein qui recevra la docteure Ariella pour le 4e épisode de Quoi de neuf, docteur Ariella. Ce soir, elle nous parlera des convulsions et de comment les traiter. Un entretien que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur vos plateformes d'écoute. Mais avant tout cela, voici le journal de ce soir et tout d'abord ses titres principaux. Depuis le 7 octobre, on déplore au moins 1200 victimes civiles et militaires en Israël, avec environ 130 otages retenus dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, signale 34 097 morts et 76 980 blessés dans la bande de Gaza. Ces chiffres ne sont pas vérifiables. Le groupe terroriste du Hamas a publié une nouvelle vidéo de propagande montrant des signes de vie d'Hersh Goldberg-Pauline, otage israélo-américain de 23 ans. Une déclaration de sa famille a approuvé l'utilisation et la publication de cette vidéo, diffusée plus tôt dans la journée par le groupe terroriste, et les parents ont réagi en adressant un message d'amour à leur fils. Des centaines de manifestants, dont les amis d'Hersh Goldberg-Pauline, manifestent près de la résidence privée du Premier ministre Netanyahou à Jérusalem, des suites de la publication de la vidéo du jeune homme par le Hamas. Quelques 500 familles endeuillées ont demandé au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de ne pas permettre aux politiciens de prendre la parole lors des événements de Yom HaZikaron de cette année dans les cimetières militaires du pays. Au lieu des discours des hommes politiques lors des cérémonies commémoratives, laissons la parole aux familles endeuillées du 7 octobre, disent-ils dans un communiqué. Le chef de l'agence de sécurité du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, se sont rendus en Égypte ce matin et ils y ont rencontré le chef des renseignements égyptiens et d'autres responsables clés pour discuter de l'offensive imminente de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza. Israël a mené des attaques dans le centre et le sud de la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Ce sont les attaques les plus intenses de ces dernières semaines. À la suite de l'attaque de missiles antichars sur Avivim, l'armée israélienne affirme que ses troupes ont bombardé les sites de lancement en quelques minutes. L'armée a attaqué avec des avions de guerre et de l'artillerie environ 40 cibles du Hezbollah. Parmi les cibles attaquées, des installations de stockage, des armes et des infrastructures terroristes. L'armée israélienne le confirme, ses soldats ont déjoué une tentative d'attaque à l'arme blanche près de la colonie de Kiryat Arba en Cisjordanie. L'agresseuse a été abattue. Le gouvernement allemand envisage de reprendre la coopération avec l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens, l'UNRWA, à Gaza. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères et du Développement dans un communiqué commun. La Maison Blanche, elle, affirme qu'elle devra constater de réels progrès avant de restaurer son financement à l'agence. Le président américain Joe Biden a salué l'adoption par le Sénat d'un programme de financement pour l'aide militaire à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, affirmant que l'argent destiné aux alliés américains arrive à un point d'inflexion critique et envoie un message au monde sur la puissance du leadership américain. Nous sommes résolument pour la démocratie, la liberté et contre la tyrannie et l'oppression. Plus de 100 manifestants juifs pro-palestiniens ont été arrêtés devant le domicile du chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, à New York. La présidente de l'Université de Columbia, Nema Chafik, a appelé à aller de l'avant avec un plan visant à démanteler le campement anti-israélien que les manifestants pro-palestiniens ont installé sur le campus de Manhattan, affirmant qu'elle a fixé à minuit ce soir l'heure limite à laquelle les organisateurs étudiants et les représentants de l'Ivy League devaient débarrasser les lieux. L'Union européenne appelle à une enquête indépendante sur les allégations palestiniennes selon lesquelles ils auraient découvert des fosses communes dans deux hôpitaux de Gaza détruits lors d'opérations israéliennes. Après avoir accusé l'Iran des attentats à la bombe contre l'ambassade israélienne et le centre juif Amia dans les années 90, l'Argentine a appelé Interpol à arrêter le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi. Une délégation nord-coréenne dirigée par le ministre du Commerce international est en visite en Iran, ont indiqué les médias officiels nord-coréens dans un rare rapport public faisant état d'un échange entre les deux pays soupçonnés d'entretenir des liens militaires secrets. Dans son rapport annuel, Amnesty International prévient que le monde assiste à un quasi-effondrement du droit international en présence de ce qu'elle qualifie de violation flagrante de la loi à Gaza et en Ukraine, de la multiplication des conflits armés, de la montée de l'autoritarisme et d'énormes violations des droits de l'homme au Soudan, en Éthiopie et au Myanmar. Un tribunal iranien a condamné à mort un rappeur populaire emprisonné à plus d'un an et demi pour avoir soutenu les manifestations nationales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, selon les médias locaux. Et enfin, le ministère de la Santé a prévenu que la canicule prévue pour aujourd'hui et demain dans tout le pays pourrait entraîner des dangers pour la population et a appelé à la vigilance. C'était les principaux titres. Maintenant, concentrons-nous un peu plus en détail sur l'actualité. Tout d'abord, cette vidéo très choquante qui a été publiée par le groupe du Hamas. Une vidéo de propagande qui montre des signes de vie d'Hersh Goldberg-Pauline, otage israélo-américain de 23 ans. Dans la vidéo de près de 3 minutes, Goldberg-Pauline, à qui il manque une main, s'identifie et demande au gouvernement israélien de ramener les otages chez eux. La vidéo n'est pas datée, mais Goldberg-Pauline affirme qu'il est devenu captif depuis près de 200 jours, retenu captif depuis près de 100 jours, pardon, ce qui indique qu'elle aurait été filmée récemment. Une déclaration de sa famille a approuvé l'utilisation de la publication de la vidéo. Ils ont répondu à leur fils qu'il l'aimait et qu'il espérait qu'il serait fort. Le cri de Hersh est un cri collectif de tous les otages. Leur temps est rapidement écoulé, déclare le Forum des otages et des familles disparues dans un communiqué en réaction à la vidéo. Goldberg-Pauline a été enlevé lors de la rave Supernova près de Reim le matin du 7 octobre. Lui et 27 autres jeunes gens se sont réfugiés dans un abri près de la zone du festival. Les terroristes y sont entrés, ont tiré sur eux et ont lancé des grenades dans leur direction. Lors de cette attaque, Hersh aurait perdu son bras. Dans une interview accordée à 7 jours en novembre, Rachel Ponilin, la mère de Hersh, a déclaré que grâce aux preuves recueillies par la famille dans l'abri où Hersh a été enlevé, elle s'est rendue compte qu'il avait perdu sa main gauche. J'ai immédiatement demandé, quelle main a-t-il perdu, la droite ou la gauche? Et quand j'ai entendu que c'était la main gauche, j'ai été prise de nausée. Parce que Hersh me ressemble, il me ressemble physiquement, je suis gauchère et lui aussi. Cela m'a brisée de penser qu'il avait perdu sa main forte, celle de nous deux, a-t-elle ajouté. Des centaines de manifestants ont donc pris la rue, dont des amis de Hersh Goldberg-Pauline, manifestement près de la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou, suite à la publication de cette vidéo. Les manifestants ont allumé un feu et des fusées éclairantes et ont affronté la police sur place. Au moins deux manifestants ont été arrêtés. Quelques 500 familles endeuillées ont demandé au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de ne pas permettre aux politiciens de prendre la parole lors des événements du Yom HaZikaron de cette année dans les cimetières militaires du pays. Au lieu des discours des hommes politiques lors des cérémonies commémoratives, laissons la parole aux familles endeuillées. Chaque année, le ministre de la Défense charge des représentants du gouvernement et de la Knesset de prendre la parole lors de différents événements. Les familles préviennent qu'au milieu des tensions sociétales, de la douleur de la guerre et de la colère généralisée contre le gouvernement, les événements pourraient se transformer en champ de bataille politique. Il souligne qu'il ne s'oppose pas à la participation des hommes politiques, mais suggère qu'ils ne prennent pas la parole. Le chef de l'agence de sécurité du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzl Levy, se sont rendus en Égypte ce matin. Ils y ont rencontré le chef des renseignements égyptiens et d'autres responsables clés pour discuter de l'offensive imminente de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza. L'Égypte, dont Rafah est limitrophe, a mis en garde Israël contre toute pénétration dans la ville où résident plus d'un million de civils gazaouis déplacés. Reuters cite un responsable israélien anonyme de la défense disant que l'armée était prête à lancer l'opération immédiatement et attendait seulement l'approbation du gouvernement. Israël a déclaré à maintes reprises que la victoire dans la guerre à Gaza, lancée après les massacres du 7 octobre, était impossible sans la prise de Rafah, l'écrasement du groupe terroriste et la récupération des otages. Et Israël a mené des attaques dans le centre et le sud de la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Ce sont les attaques les plus intenses de ces dernières semaines. Menées depuis les airs avec des tirs de chars au sol, l'opération aurait duré près de 24 heures d'affilée. Selon l'agence de presse Reuters, la décision d'attaquer a été prise à la suite des tirs effectués la veille depuis la bande de Gaza vers les localités du sud d'Israël. La branche militaire du djihad islamique à Gaza a revendiqué ces tirs. L'armée israélienne a affirmé que les lance-roquettes étaient préparés pour une attaque contre Israël et ont été touchés avant de pouvoir être utilisés par le Hamas. Il ajoute que la frappe avait été menée après avoir pris des précautions pour atténuer les dommages causés aux civils. Les bombardements se sont concentrés sur la zone du village de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, dans le camp de réfugiés voisins de Jabalia à Beit Laïa, où un enfant et un membre du personnel médical ont été tués et plusieurs personnes ont été blessées. Une autre cible était le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza. Une mère de 6 enfants qui vit dans le quartier a témoigné que les bombardements des chars et des avions n'ont pas cessé. À la suite de l'attaque de missiles anti-chars dans la localité au nord d'Israël, Avivim, l'armée israélienne affirme que ses troupes ont bombardé les sites de lancement en question. En quelques minutes, l'armée a attaqué avec des avions de guerre et d'artillerie environ 40 cibles du Hezbollah. Parmi les cibles attaquées, des installations de stockage, des armes et des infrastructures du groupe terroriste. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que la moitié des commandants du Hezbollah dans le sud du Liban avaient été tués par l'armée israélienne. La moitié des commandants du Hezbollah au sud du Liban ont été éliminés et l'autre moitié se cache et ont abandonné le sud du Liban à cause des opérations de l'armée israélienne, a déclaré Gallant. Il affirme que le principal objectif d'Israël dans le nord est de ramener chez eux des dizaines de milliers d'Israéliens déplacés depuis le 7 octobre. Le président américain Joe Biden a salué l'adoption par le Sénat d'un programme de financement pour l'aide militaire en Ukraine, à Israël et à Taïwan, affirmant que l'argent destiné aux alliés américains arrive à un point d'inflexion critique et envoie un message au monde sur la puissance du leadership américain. Nous sommes résolument pour la démocratie et la liberté contre la tyrannie et l'oppression. Le besoin est urgent, dit-il, pour l'Ukraine confrontée au bombardement incessant de la Russie, pour Israël qui vient de faire face à des attaques iraniennes sans précédent et pour les réfugiés et les personnes touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Cette législation cruciale dans notre nation rend le monde plus sûr alors que nous soutenons nos amis qui se défendent contre des terroristes comme le Hamas et des tyrans comme Poutine. Aux États-Unis, la présidente de l'Université de Columbia, Nema Chafik, a appelé à aller de l'avant avec un plan visant à démanteler le campement anti-israélien que les manifestants pro-palestiniens ont installé sur le campus de Manhattan, affirmant qu'elle a fixé jusqu'à minuit ce soir leur limite à laquelle les organisateurs étudiants devaient débarrasser les lieux. Dans une lettre adressée aux autres membres de la communauté de Columbia, Shafik a déclaré qu'elle soutenait pleinement l'importance de la liberté d'expression, respectait le droit de manifester et reconnaissait que de nombreux manifestants s'étaient comportés de manière pacifique. Cependant, a-t-elle ajouté, le campement soulève de sérieux problèmes de sécurité, perturbe la vie sur le campus et a créé un environnement tendu et parfois hostile pour de nombreux membres de notre communauté. Inspirée par les manifestations en cours et irritée par l'arrestation la semaine dernière de plus de 100 étudiants à l'université de Columbia, des étudiants du Massachusetts à la Californie se rassemblent désormais par centaines sur les campus, installant des camps de tentes et s'engageant à rester sur place jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Alors, quelles sont leurs revendications? Apparemment, les manifestants voudraient que les dotations universitaires se désinvestissent des intérêts israéliens et que les États-Unis mettent fin ou du moins conditionnent l'aide militaire israélienne et que le sort des Palestiniens soit amélioré. Ce soir, nous recevons Eden Seton. Eden est étudiante aux États-Unis et elle va nous faire part de son expérience d'étudiante franco-israélienne dans cet environnement de plus en plus peut-être hostile. Eden, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va, ça va.
Bah, on va tout de suite parler de comment ça va. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation à notre journal. Est-ce que Bien vous sûr. Pouvez en quelques mots d'abord vous présenter, nous dire un peu d'où vous venez, où vous avez grandi, qu'est-ce que vous étudiez, où vous étudiez, etc.
Bien sûr. Alors, je m'appelle Eden, j'ai grandi à Tel Aviv, en Israël. Je suis née à un père français. Mais donc j'ai jamais habité en France, je suis juste française comme ça.
Et francophone tout de même, hein. Vous avez un très beau français.
Ouais, francophone, exact. Exactement. Et j'ai fait l'armée en Israël, j'ai fait toutes mes études là, j'ai fait mes études jusqu'au lycée. Et puis j'ai venu ici pour faire des études en music business à Drexel en Philadelphie. Mm-hmm. À Philadelphie. Et oui, c'est ça, c'est où je suis.
Alors, dites-nous, vous, donc, sur votre campus en Philadelphie, est-ce que vous avez vu, vous savez qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes de l'envergure, un peu comme celle qu'il y a à Columbia?
Alors, il faut noter quelque chose qui est très important. Ce qui se passe à Columbia, c'est très spécial. Chez nous, en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a des manifestations, c'est très hostile pour les Israéliens et les Juifs. Comme israélienne, c'est pas sympa sur le campus, mais c'est pas des camps avec des gens qui ne laissent pas rentrer dans les immeubles d'académie. Pas du tout le cas. Le président de l'université a très bien fait depuis le début à parler. C'est-à-dire, il a dit depuis le début qu'il va protéger toujours les étudiants juifs et israéliens et musulmans aussi pour leur laisser faire leur vie religieuse et académique free as always, comme toujours.
Aussi libre, qu'avant, quoi.
Mm-hmm. Oui. C'était très important pour lui.
Et vous, est-ce que vous avez ressenti depuis combien de temps vous habitez aux États-Unis?
2 ans.
2 ans.
Ça fait 2 ans.
Donc vous êtes arrivé, vous avez commencé à étudier déjà avant le 7 octobre. Est-ce que vous remarquez une différence dans le rapport des autres étudiants à vous depuis le 7 octobre? Est-ce que votre vie a changé, évidemment en dehors du fait que le cœur est lourd depuis le 7 octobre, mais je veux dire votre vie universitaire et vos relations à vos camarades de classe?
Tu ne parles plus, on ne parle plus le français, le français, l'hébreu sur le campus, parce que ça sent hostile en tout cas.
Vous avez eu des remarques quand vous avez parlé hébreu?
Oui, des remarques quand je parle hébreu et des gens sachent que je suis israélienne et que j'ai servi à l'armée et ils ont arrêté de me parler. Tout à fait. Des certains gens, pas tout le monde. Je dis que je suis française, je ne dis plus que je suis israélienne. Mm-hmm. C'est plus facile que c'est je peux simple. Parler le français, mais ouais, c'est pas normal, c'est-à-dire ça ne doit pas être comme ça. C'est difficile.
Et est-ce que vous avez eu des discussions avec, parce que donc vous dites que chez vous il n'y a pas de manifestation comme à Colombia par exemple, mais est-ce que tout de même vous avez vu des événements et des actes qui étaient antisionistes mais en vérité antisémites?
C'est jamais anti-sioniste. C'est vraiment jamais seulement anti-sioniste. C'est toujours antisémite. C'est toujours contre les juifs. Il y avait un moment, il y a une semaine en fait, juste avant Pessah, qu'un groupe de 6 gens ont venu sur l'immeuble de Hillel, que c'est un immeuble juif, complètement. Il n'y a aucun rapport d'Israël. Et ils ont enlevé le nom du donateur de l'immeuble. La plaque, sa plaque.
Pourquoi ?
Et parce qu'il est juif, parce qu'il voulait pas supporter Israël, parce que qui sait. Juste, ils sont venus à 6h du mat, ils ont enlevé la plaque du donateur. Et le président il était très très clair. Il a dit qu'on n'accepte pas des choses comme ça, mais ça arrive. C'est-à-dire, c'est toujours vers les juifs. C'est jamais juste vers les Israéliens. C'est ce qui est... Ouais.
Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une importation du conflit et que les même si c'est pas forcément que les Israéliens méritent d'être attaqués, mais c'est vous dites qu'il n'y a pas de différenciation qui est faite en fait entre l'État d'Israël et les Juifs.
Et les Juifs. Non, non, non. Ils disent comme si c'est anti-sionisme, mais quand ils disent « fuck the Jews » ou quand ils mettent des swastikas partout dans le campus, c'est antisémite.
Et est-ce que vous avez vu en parallèle à cela des manifestations pro-israéliennes ? Est-ce que les Juifs et les Israéliens ou même les personnes qui veulent apporter leur soutien à Israël ou au fait que les otages doivent être leur soutien aux otages, par exemple, est-ce que vous avez vu des manifestations comme celle-ci sur votre campus ?
Alors, pas des manifestations. Je suis partie d'un groupe qui sont les étudiants qui supportent Israël. On a décidé qu'on va pas faire des manifestations, on va pas arrêter la rue, on va faire des prières dehors pour les otages et pour les soldats et pour notre pays qu'on aime, mais on va pas faire des manifestations violentes dans les rues parce que on veut pas montrer que c'est ça notre but.
Vous voulez apporter un message de paix et de calme.
Oui. Ouais.
Et est-ce que quand vous avez fait ces prières, vous avez eu des réactions qui pouvaient être violentes ? Comment les gens vous ont reçu ?
Non, 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 c'était assez calme. Et la police du campus nous garde toujours. Ils sont très, très vigilants à nous aider. Ils font un très bon travail. Vraiment, Drexel font un très bon travail.
Donc, ce que vous dites, c'est que globalement, la direction de l'université et l'administration sont quand même soucieux du bien-être des étudiants juifs et israéliens dans l'université.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que aussi à Colombie, le problème, c'est l'administration.
C'est-à-dire ?
Parce que les étudiants, ils savent pas tout ce qui se passe. Moi, comme israélienne, je peux avoir mes idées, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qui est la vérité de tout le monde. Les étudiants ici, ils entendent qu'il y a un peuple pauvre qui est attaqué et ils veulent aider. Ils veulent aider le underdog.
C'est ce qui semble logique, c'est ça.
Oui, et c'est normal. Et c'était comme ça avec les communistes aussi. C'est comme ça l'histoire. Mais quand l'administration n'arrête pas les manifestations violentes, ça finira jamais.
Donc ce que vous voudriez, c'est que l'administration prenne ses responsabilités, notamment à Columbia et à d'autres universités où ça chauffe un peu plus.
Oui, tout à fait. Chez nous, c'est très important. Ils font un très bon travail.
Et est-ce que vous sentez que cet environnement très tendu peut le devenir encore plus ? Est-ce qu'on peut arriver à une explosion ? Comment vous voyez les prochains mois ? Surtout avec l'opération à Rafah qui va arriver probablement très bientôt.
Sans doute bientôt, ouais. Je pense que dans des places comme Columbia, comme MIT, comme Harvard, que ça fait depuis le début qu'on voit que c'est un peu compliqué, ça va être ça va être très fort. Ça va devenir très, très violent. Je pense que si... j'espère, honnêtement, j'espère que dans des campus comme à Drexel, ça ne sera pas aussi violent, même après une attaque sur Rafah. Et il faut dire aussi que j'espère que des gens innocents ne meurent pas non plus de aucun côté. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas cette guerre. Mm-hmm. Mais je pense que ici à Drexel, ça sera minimal. Ça sera minimal. Mm-hmm, mm-hmm. Pas comme à Columbia et les autres universités.
Alors, je vous ai posé surtout des questions qui parlent de la difficulté de la situation. Est-ce que vous auriez, comme ça, comme une dernière remarque à nous donner, quelque chose, un petit message d'espoir, peut-être une interaction qui vous a agréablement surpris, ou un soutien, ou une espèce d'image de fraternité que vous avez pu voir depuis le début de la guerre aux États-Unis ?
C'est magnifique, en fait, que... J'ai trouvé tous mes vraiment bons amis et bonnes amies avec des Juifs et d'autres Israéliens. Même si ce ne sont pas des gens que j'aurais été très bonne amie avec en Israël, on se garde et on s'occupe l'un de l'autre pour voir que tout le monde va bien. Et c'est une communauté tellement chaleureuse et qui accepte tout le monde. C'est vraiment génial. Et du Chabad, de Hillel et des étudiants et de l'administration, c'est quand tu veux accepter les gens, tu les acceptes, aucun rapport s'ils sont juifs ou chrétiens ou musulmans. Et les gens du Chabad, de Hillel ici à Drexel et même à Philadelphie, en gros, ils sont très, très, très gentils.
Je suis heureuse de l'entendre.
Très invitant.
Eden Sutton, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études et on espère que vous allez vous sentir en sécurité là où vous êtes.
Merci beaucoup.
Merci Eden.
À tout le monde.
Au revoir, bonne soirée.
Bonsoir.
C'était donc Eden Sutton, étudiante à Drexel, à Philadelphie, qui nous parlait de son expérience. Je continue avec quelques titres pour cette journée. L'Union européenne a appelé à une enquête indépendante sur les allégations palestiniennes selon lesquelles ils auraient découvert des fosses communes dans deux hôpitaux de Gaza détruits lors d'opérations israéliennes. C'est quelque chose qui nous oblige à demander une enquête indépendante sur tous les soupçons et toutes les circonstances, car cela donne effectivement l'impression qu'il pourrait y avoir des violations des droits de l'homme internationaux, a déclaré le porte-parole de l'Union européenne, Peter Stano. L'armée israélienne a fermement nié avoir creusé des fosses communes et affirme avoir effectué les excavations des tombes déjà existantes dans le but de recherche d'otages. Des images géolocalisées montrent que les tombes ont été creusées par les Palestiniens au milieu des combats. C'était le journal pour aujourd'hui. Je vais vous donner la météo avant de nous quitter. Alors, nous savons que nous sommes dans une forte canicule en ce moment. L'État israélien et le ministère de la Santé appellent à une vigilance accrue. Il est conseillé de rester en intérieur et s'il est absolument nécessaire de sortir, alors porter un chapeau à large bord, des vêtements confortables de couleur claire et utiliser un écran solaire à indice de protection élevé. Les signes d'une insolation, si vous voyez un de vos proches autour de vous qui pourrait en avoir une, sont une température corporelle de 39,5 degrés Celsius ou plus, une peau rouge chaude et sèche, c'est-à-dire qui ne transpire pas, un pouls rapide, un fort mal de tête ou des lancements dans la tête, des vertiges, une nausée, une confusion ou même une perte de conscience. En attendant l'arrivée du Magen David Adom, si vous faites face à une personne qui a une insolation, la personne doit être déplacée dans un endroit frais et ombragé et surtout, il ne doit pas recevoir d'eau ni aucun autre liquide par voie orale en attendant les services médicaux d'urgence. Les maximales pour demain jeudi à Tel Aviv, nous aurons 40 degrés. À Jérusalem, 36 degrés. À Haïfa, 41 degrés. À Tibériat, 41 degrés. À Tzfat, 33 degrés. À Ashdod, 40. À Beersheva, 41. Et à Eilat, 39 degrés. Il est 21h29 et nous voilà à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Écoutez-nous en direct à la radio sur le 101.3 FM ou encore sur l'application gratuite de Cannes dans la section RECA. Vous pouvez nous rejoindre sur ce rendez-vous à Facebook Live du dimanche au jeudi à 21h. Et puis quand ça vous arrangera en replay, quant à nos interviews, elles sont toutes disponibles en podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, Spotify, etc. Pour nous trouver, vous n'avez qu'à taper les mots Cannes en français. Vous étiez donc avec Rachel Haddad. Dans quelques instants, vous aurez le magazine avec Yael Bornstein. Bonne fin de soirée et à demain.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Eric Setton. Bonsoir docteur.
Bonsoir Yael, bonsoir aux auditeurs.
Je rappelle que vous êtes dans la vie civile le directeur médical du centre médical d'Herzliya, ça c'est dans la vie civile, mais ce qui nous intéresse surtout en ce moment, vous êtes lieutenant-colonel de réserve et ancien médecin en chef de l'unité de sauvetage héliportée de Tzal. Docteur Setton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. On a évidemment beaucoup de questions stratégiques, militaires, pratiques à vous poser. Aujourd'hui, l'armée israélienne a annoncé de manière assez inhabituelle qu'elle allait lancer plusieurs frappes sur le Liban, et ce en riposte à l'attaque de la commune Margaliot, qui a été fortement touchée. Comment est-ce que vous interprétez cette annonce, tout d'abord ?
Alors, généralement, lorsque Tzahal fait des annonces avant des attaques, c'est pour essayer de prévenir les populations civiles et éviter tout dommage collatéraux. Et donc, je pense que Tzahal savait ou sait qu'il y a des capacités des populations civiles qui risquent d'être atteintes et donc essaye d'éviter au maximum les pertes civiles. Ça a toujours été le but de Tzahal dans toutes les opérations, que ce soit à Gaza ou que ce soit également au sud-Liban.
C'était même des flyers, hein. On se rappelle de l'époque des distributions de flyers en hébreu, en arabe, en anglais, de manière à préparer la population civile. Hein.
Tout à fait, également pendant la deuxième guerre du Liban, ça a été fait également. Mmh. Et donc, généralement, lorsque Tzahal prévient, il y a toujours un but derrière ça.
C'est ça. Donc quand ça, si je traduis, on va dire avec des mots un petit peu plus basiques, quand ça ne prévient pas, il s'agit de postes de cibles terroristes au sud Liban ou dans le sud de la Syrie qui sont des cibles terroristes. Quand il s'agit de risques pour la population civile, là on est sûr qu'on a une annonce de Tzahal.
Tout à fait.
Voilà. Alors, quelles évolutions vous voyez en ce moment sur le front nord entre Israël et le Hezbollah ?
Alors, je crois qu'on est dans une logique où, pour l'instant, nous avons compris qu'Israël ne peut pas vivre avec une menace terroriste à ses frontières, que ce soit le Hamas dans le sud ou le Hezbollah au nord. Et donc, on se prépare à éliminer cette menace. Et on est en train d'essayer de détruire de façon systématique les capacités du Hezbollah, tout en jouant pour l'instant encore la carte diplomatique, puisque même Macron, le président Macron l'a annoncé là récemment, il continue d'essayer, et que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec également d'autres partenaires, d'essayer que le Hezbollah se retire au-delà de la ligne qui ne soit
le fleuve
plus
du Litanie, oui. Mais voilà, est-ce que ça va changer quoi que ce soit
pour la population israélienne?
Est-ce que ça va changer quoi que ce soit qu'ils se retirent derrière le Litanie? Ils ont des missiles à longue portée qui peuvent arriver jusque dans le sud d'Israël. Est-ce que c'est quelques kilomètres qui séparent les positions actuelles du Hezbollah et celles qui seront au-delà du fleuve du Litanie vont vraiment changer la donne selon vous?
Oui, ça peut changer la donne par rapport à des attaques terrestres et par rapport à des menaces sur des civils, que ce soit des infiltrations par des tunnels ou des attaques de tir direct sur des civils. C'est sûr que ça ne change pas complètement la donne par rapport aux missiles, Mais c'est quand même quelque chose qui nous permettra d'avoir d'offrir la possibilité aux civils de retourner dans les localités, que ce soit Metoula ou Kiryat Shmona ou toutes les localités qui ont été évacuées, et on ne peut plus garder les civils, donc ne pas les laisser retourner chez eux, c'est quelque chose qui est impossible.
On sait
Mais
même pas
pour l'instant,
jusqu'à quand.
là.
On sait que a priori l'école ne reprendra pas le 1er septembre. On en est un petit peu là, hein.
Tout à fait. Donc, on essaye quand même et on continue à jouer la carte diplomatique en sachant qu'il y a un grand risque qu'il y ait une capacité d'affrontement de façon beaucoup plus importante à ce niveau-là.
Alors, je voudrais qu'on passe aussi maintenant au front sud, parce que là aussi, il se passe des choses. On est toujours dans l'attente, bon, évidemment, de la restitution ou du retour ou de l'extraction de nos otages. Pour l'instant, on n'en est malheureusement pas là, encore que les discussions interminables se poursuivent, mais on voit pas le bout de cela. En revanche, l'armée israélienne a appelé deux nouveaux bataillons de réservistes à Gaza cette dernière semaine. Le sud et le centre de la bande de Gaza ont été fortement frappés cette semaine. On attend toujours l'attaque israélienne dans la région de Rafiar. Est-ce que vous pensez qu'on doit s'attendre à cette opération dans les jours prochains? Et si oui, quel doit être l'emploi du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on attend encore si longtemps, au-delà du déplacement de la population civile de nouveau?
Alors, je crois qu'il faut, au niveau de Gaza, il faut rentrer dans une autre logique. Ce n'est pas une guerre qui va durer quelques mois, ça va durer encore plus longtemps. Nous avons devant nous des objectifs encore plus importants. L'objectif a été, il y a l'élimination totale de la capacité terroriste du Hamas. Les gens à l'extérieur nous disent que c'est impossible, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Bien sûr, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en un mois ou même en un an. Mais c'est quelque chose où Tsahal doit y arriver pour permettre encore une fois aux civils de rapatrier, de réhabiter dans leur maison. Et c'est quelque chose où il faut comprendre qu'il faut ce qu'on appelle en hébreu changer de disquette, il faut changer de compréhension. Il n'y aura pas de menace sur les civils dans la bande autour dans le pourtour de la bande de Gaza. Les civils qui habiteront à Gaza ne seront pas une menace pour les civils israéliens. Et donc, oui, on a des bataillons qui rentrent, des bataillons qui sortent pour se reposer, des bataillons qui rentrent pour continuer le travail, pour continuer d'éliminer toute menace terroriste. Il y a eu des tirs terroristes du nord de la bande de Gaza qui a été, qui a, où nous sommes, où nous avons commencé, nous avions commencé la guerre, mais ça prouve qu'il faut continuer et recontinuer et remettre l'ouvrage sur le terrain. Nous devons continuer encore à éliminer toute capacité. Donc Rafiar, de toute façon, sera également nettoyé des poches de terroristes. C'est quelque chose qui doit se faire en relation très 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 proche et en coordination très intense avec non seulement les États-Unis mais également avec l'Égypte, parce que c'est très proche de la frontière égyptienne. Donc tout ça doit se faire et va se faire au long cours. Ce n'est pas, comme on dit en hébreu, zbang et on a
Oui,
fini.
c'est ça.
C'est quelque chose qui va se faire au long cours, qui va continuer à se faire pendant les mois et même l'année qui va venir. D'accord? Et notre plan, nos plans sont d'éliminer toutes les poches terroristes, toutes les capacités, toutes les possibilités, toutes les utilisations de tunnels, que ce soit à la fin. Un endroit qui ne représente pas une menace, que ce soit par missile ou que ce soit d'infiltration, d'actes terroristes ou d'attaques, pour les civils israéliens.
Alors, juste avant qu'on passe à la fin de cet entretien, je voudrais vous faire réagir à cette nouvelle qui est apparue il y a quelques minutes. Le Hamas, qui continue le terrorisme psychologique, vient de publier une vidéo de l'otage Hersh Goldberg-Polin, qui est un israélo-américain, donc un doigt dans l'œil d'au plus envers l'administration de Biden. Hersh Goldberg-Polin, qui a 23 ans. Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle? Est-ce que c'est un signe d'espoir ou bien est-ce que c'est au contraire une arme supplémentaire du Hamas pour jouer avec nos nerfs et au nerf avec
non,
les nerfs de sa famille?
Non, c'est bien sûr une composante de la guerre psychologique que le Hamas utilise contre Israël et pour essayer, ils entendent, ils suivent exactement les réactions des Israéliens, de la rue israélienne. Ils savent combien les otages sont importants pour nous. Pour eux, ce n'est qu'une monnaie d'échange. Ils n'ont aucun intérêt, aucune volonté d'arriver à un accord pour libérer les otages. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de continuer à ce que Gaza soit un abcès de fixation de haine entre Israël et les Arabes. Et éviter donc tout rapprochement d'Israël avec d'autres États arabes comme l'Arabie Saoudite. Mais pour eux, l'utilisation des otages et surtout d'un otage qui a la double nationalité américaine et israélienne est un moyen de guerre psychologique pour essayer de faire pression encore sur Israël, éviter l'entrée à Rafah, éviter la continuation de l'élimination des menaces terroristes.
Alors, docteur Seton, avant de terminer cet entretien, on n'en parle plus toutes les 5 minutes ou plus 24 heures sur 24 comme c'était le cas avant, mais c'est quand même quelque chose qui est assez latent. Il y a toujours la menace de la guerre avec l'Iran, et je parle de manière directe. Est-ce que la menace immédiate est derrière nous, selon vous ?
Alors, je crois qu'il n'y a pas de menace de guerre directe avec l'Iran. Je crois que l'Iran voulait montrer qu'il avait les capacités d'atteindre Israël et qu'Israël voulait montrer à l'Iran qu'il n'avait pas les capacités d'atteindre Israël, qu'Israël, lui, a la capacité d'atteindre l'Iran. Et c'est surtout vis-à-vis d'une opération sur le Hezbollah pour montrer que le Hezbollah n'aura pas la couverture de l'Iran s'il y a une confrontation directe entre Israël et le Hezbollah.
Eric Seton, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très prochainement sur les ondes de Canon Français. Merci.
Merci beaucoup, Yaël.
ותרועות ניצחון משתלבים במחרוזת שוב בשלהי הפריחה בתום חג של שמחה תוגה מתחדשת שוב אותו חבר אותו האח שנשאר עם חיוך במסגרת לוחש בדממה היו שלום אנחנו רק מגש הכסף כי בזיכרון סוד גאולה, זיכרון סוד גאולה, זיכרון הוא סוד החולמים. שברי חלומות מתנפצים, לבבות מתאחדים, אל חזון אחרית הימים. שוב המיית הגלים, כמו רשרוש העלים. משובבים את ליבו של ההלך שוב הסמכות הקטנות קרני שמש חמות מזכירות שאנחנו בדרך שוב השמיים נקראים מתפילת הרבים על חייל שנפל במשמרת שוב הדמעות מרטיבות
לחיי עם צדוקות של השר אשר שרד את התופת. כי בזיכרון סוד גאולה, זיכרון סוד גאולה, זיכרון הוא סוד החולמים. שברי חלומות מתנפצים, לבבות מתאחדים אל חזון אחרית הימים.
והיה באחרית הימים וחיתתו חרבותיהם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וישבו איש תחת גפנו ותחת תנתו ואין מחרים, כי פי השם צבאות דיבר.
סוד גאולה, זיכרון סוד גאולה, זיכרון הוא סוד החולמים. שזה ייגמר כך ולא אראה אותך שוב, תמיד קיוויתי שאת תחזרי להיות קרובה אליי, החיוך שלך, המבט שלך בתוכי.
כל הלילה בין השבילים במטעים במטעים מנגו חתוך עם בירה קרה ורעש שכשוך להיות שם כשקמים החקלאים אפשר לחשוב גבוה שמש מנשקת בלי לנגוע הציפורים ראו הכל ינה למרך בזמן נסיעה עם תיק הימים חמים של זר סיגריה בכאילו מגבעול אפשר לחשוב שהייתי מאושרת אפשר לחשוב
חזק בקיר ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זריקה כמו באמריקה. נדפוק את השיחה, זה עולה 200 שקל, ונפקה עם העינון והנפת הדגל. ניתן לילד שיושב מול המסך, ניתן לו קצת כסף, נגיד שזה כך. כמו באמריקה, כמו באמריקה. אבל את רוצה לנסוע לטבריה בלעדיי, רוצה לנסוע לטבריה בשבת, רוצה לנסוע לטבריה.
האושר מקווים והגורל צבעו מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים.